away from the old neighborhood, and I'm certain she's gone for good. Last time I saw Janine, the dollar sign stood in between. It was love lost, gone rising and cost, and since then I have never seen.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir, chers auditeurices. Bonsoir, oui, vous êtes bien sur Radio Campus Orléans pour la première émission de l'année. Alors, on se fait un film. Une émission spéciale parce que nous allons faire le top 10 de l'année 2025. Et pour ça, nous allons prendre 2 heures... du temps sur Radio Campus pour parler de nos 10 10 films préférés de l'année 2025. Et donc, je ne suis pas toute seule. Eh bien, bonsoir, Gob.
Bonsoir, ravi de retrouver l'équipe et de, je l'espère, pouvoir débattre de manière sympathique et peut-être par moments un petit peu accrocheuse des films qu'on a préférés en 2025. L'heure du bilan a sonné.
Bonsoir Claude.
Bonsoir à toutes et à tous et meilleurs vœux pour cette année 2026 en espérant qu'elle soit plus riche que l'année 2025 en film.
Bonsoir Arnaud.
Oui, pas mieux.
Oui, on a plein d'espoir.
Oui, tout à fait.
Bonsoir Vincent.
Oui, bonsoir, meilleurs voeux à toutes et à tous, c'est pareil.
Oui, on vous souhaite effectivement une très bonne année, une très belle année 2026. On l'espère effectivement riche en films. Bon, on est... si on restait optimiste, on espère effectivement qu'il y aura de beaux films effectivement cette année. Mais pour le moment, c'est l'heure donc du bilan, comme vous avez pu le dire. Et je voulais, juste avant qu'on commence par le numéro 10, quand même rappeler, juste pour un petit hommage des personnes qui sont parties en 2025, j'ai nommé donc David Lynch, qui est parti dès le mois de janvier, Robert Redford, Claudia Cardinale, Peter Watkins, Marcel Ophuls, Diane Keaton, Bertrand Blier, Emily Deakin, Val Kilmer, qui font partie voilà, de ces personnes qui ont marqué le cinéma et qui nous ont donc quittés.
Et Brigitte Bardot.
En 2025, oh, oui.
Ah, bah oui, bah si, quand même.
Oui.
Si, en toute fin de parcours.
Elle a aussi fait du cinéma.
Aussi.
Ouais.
Oui, bah.
J'avais pas trop envie de lui rendre hommage. Bah, oui. Mais voilà, toutes ces personnes sont quittées donc en 2025. Voilà, on leur fait un grand hommage pour toute leur carrière. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Je voulais dire quand même qu'en 2025, juste pour marquer les films qui ont été primés rapidement. Juste, il y a eu les Golden Globes en début d'année avec le meilleur film The Brutalist de Brady Corbett. Le César du meilleur film avait été attribué à Emilia Pérez de Jacques Audiard, vous en souvenez, qui a fait sensation ce film, mais très controversé. L'Oscar du meilleur film avait été attribué à Anora de Shane Baker. Et la Palme d'Or au Festival de Cannes a été remise à Jafar Panahi pour Un simple accident. Voilà, un petit rappel de 2025, petit bilan rapide. Si vous n'avez rien à rajouter, on peut commencer. Du coup,
on peut attaquer. Oui.
Et numéro 10, est-ce que Vincent, tu peux commencer?
Voilà. D'accord.
Ça te va?
Oui, ça me va. Numéro 10, pour moi, c'est le dossier Maldoror. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est que ce truc?
C'est
un film belge, franco-belge, de Fabrice Duvels. Fabrice Duvels, on lui doit initialement Calvaire, il y a des années. Sur ce film assez long, de 2h30, je crois, il s'est intéressé à faire une sorte d'évocation de l'affaire Dutroux de manière très fictionnelle. Hein, c'est vraiment une interprétation, ça s'inspire beaucoup, c'est très libre d'après la vraie affaire. Mais malgré tout, ça mettait en valeur le film, les antagonismes entre, on va dire, les polices et la gendarmerie, c'est comme en France. Et puis la problématique un peu de corruption. Et puis ça s'intéressait aussi à la communauté dans mon souvenir. Alors je ne sais plus quelle était... En l'occurrence,
Italo-belge,
et du coup, ça donnait un petit sel particulier au film qui avait presque une ampleur parfois un peu à la manière du Parrain, c'est-à-dire avec un mariage un peu assez conséquent, une séquence de mariage, comment dire, c'est un peu un imposé dans les films. Tout ça pour dire que c'était plutôt une bonne expérience, il y avait des choses intéressantes, c'était pas parfait loin de ça, mais voilà, je l'ai mis dans mon top 10 pour le souvenir que j'en ai sur le premier semestre de cette année. 2025, bien sûr, on est en 2026.
On est en 2025.
Arnaud, ton numéro 10 de 2025?
Oui, alors moi j'ai mis Rapace. Alors par contre, le nom du réalisateur, là je risque de l'écorcher.
Ah mince, ah, tu l'as?
Bah oui, je l'ai.
Zurunkis.
Zurunkis. Oui, c'est voilà, je te remercie. Avec Sabi Bouajila, Mallory Vanek, Daroussin et quelques autres. Ça avait été une assez bonne surprise, même si j'avais déjà regretté à l'époque où on en avait parlé que le côté presse poubelle ne tenait pas toute la durée du film. Mais en dehors de ça, c'était un thriller qui était assez bien mené, avec quelques scènes de tension, entre autres vers la fin, dans un resto.
Superbe scène dans le resto.
Oui, voilà, qui justement, enfin, justifie que ce film se retrouve donc dans ce top et à la 10e position.
Merci. Claude, tu peux enchaîner.
Moi, en numéro 10, mais je voudrais revenir sur la nécrologie. On a oublié, on l'avait fait, rendu hommage. Il y a Robert Redford qui a disparu quand même. On l'a
oui,
pas
je
rappelé.
L'ai cité.
Tu l'as cité? Oui, d'accord,
oui.
Excuse-moi.
Oui,
oui. En numéro 10, alors, bon, d'abord, à part les deux premiers, à partir du troisième, j'aurais pu inverser dans tous les sens, brasser. Il y a au moins 15 films qui sont du même niveau et qui sortent pas du lot. C'est un film grand public. C'est La femme la plus riche du monde. Parce que j'ai trouvé que c'était finalement... on parle de choses qui se sont passées, véridiques, sans éluder effectivement des véritables, drames politiques, notamment sur son père. Et j'ai trouvé ça intéressant, c'est grand public, c'est pas le Comte de Monte Cristo, mais ça se voit très, très, très facilement et on passe un bon moment. Donc c'est La femme la plus riche du monde, mon numéro 10.
Merci Claude. Et Gob?
Ok, alors moi en numéro 10, bon voilà, c'est un film qui m'a posé un petit peu problème quand même. Bon, j'ai fini par le mettre, j'ai hésité. Je vais vous expliquer pourquoi avant de vous dévoiler le titre. C'est un film, j'ai eu beaucoup de mal avec le scénario. Voilà, j'ai trouvé le scénario foutraque, pas toujours très convaincant. Mais c'est quand même un film dont la mise en scène est absolument extraordinaire. C'est Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. J'ai trouvé notamment, le film doit durer à peu près 2h40, il y a une scène, on va dire une longue scène centrale où le film suit le personnage de DiCaprio lancé dans une espèce de course en avant un peu dingue. Alors DiCaprio est déjà génial, vraiment, bon, vraiment génial. Et là, à ce moment-là, on atteint un niveau d'intensité dans la mise en scène qui est quand même assez prodigieux. Voilà, donc moi c'est vraiment un film que je défends pour sa mise en scène qui pour moi est quand même vraiment épatante, et ça prouve une fois de plus que Paul Thomas Anderson est un grand réalisateur. Mais après moi cette histoire qui se veut une parodie de l'Amérique contemporaine qui part dans tous les sens, ça m'a très très peu convaincu. Mais si le cinéma c'est de la mise en scène, on peut dire quand même que Paul Thomas Anderson mérite sa place dans les 10 meilleurs films de l'année.
Mais tu sais que Paul Thomas Anderson est un des grands favoris des prochains Golden Globes.
C'est bien possible.
Qui sont prévus là le 11 janvier. Et apparemment, il est bien parti pour être récompensé. Eh bien, merci Gob. Eh bien, moi, mon numéro 10, c'est le film de Rebecca Zlotowski, Vie privée. Oui, je sais que tu l'as pas trop apprécié, mais ça reste mon numéro 10. Dans Vie privée, c'est Jodie Foster qui joue donc un personnage de psychiatre qui est très sûr d'elle, antipathique, avec une rigidité intellectuelle. Et je trouve que ce qui est intéressant dans le film, c'est comment cette psychiatre va évoluer dans sa quête et se remettre en question. Et pour un film de Zlotowski, je le trouve vraiment bien écrit, bien filmé. C'est pour ça que c'est mon numéro 10.
Non, mais tu as raison. C'est un des films, dans les 15, on aurait pu le mettre, brasser. C'est dans les films du milieu qui sont réussis. Mais bon, je veux dire, c'est... Bon.
Oh là là, Claude, t'as pas eu trop de coups de cœur en 2025.
En 2025, j'ai pas eu beaucoup de coups de cœur.
J'ai l'impression que c'est une année tiède pour Claude.
Ouais, c'est une année tiède.
Mais c'est quand même, moi, en tout cas, je peux dire que c'était un plaisir quel plaisir de retrouver Jodie Foster, actrice, dans un rôle où en plus on sent qu'elle a pris vraiment du plaisir à interpréter ce film. Et moi, j'ai trouvé que c'était un film quand même assez riche. Voilà. Je m'attendais pas à avoir un grand film, mais j'ai vu un film quand même dont le scénario est quand même assez riche et voilà, qui pour moi était bien plus intéressant que ce que j'attendais, on va dire, au départ. Ce qui est toujours bien quand tu sors d'un film en te disant que c'était quand même plus intéressant que ce que t'attendais.
Effectivement. Et oui, Vie privée, qui est peut-être encore à l'affiche, je remarque. Non, je sais plus. Bon, il était en fin d'année. Bref. Eh bien, on avance. Numéro 9. Vincent.
Ah mince, ça prend le même sens. Hein.
Oui, ça vous dérange pas.
Non, ça me dérange pas.
On tourne.
Ok, alors moi, mon 9e film cette année, c'est Eddington de Robert Eggers. Moi, j'aime beaucoup Robert Eggers, c'est un cinéaste que je suis avec plaisir. 2h25, alors avec une bataille Apollo, ça aurait pu être un peu le combat des films foutrac.
Oui, c'est vrai.
Et assez long.
C'est vrai.
Les deux le sont, ils parlent de l'Amérique eux aussi, les deux. Mm-hmm. Alors, prenons celui-là, il est peut-être un peu plus organisé que celui de Paul Thomas Anderson. C'était simple, c'est l'année Covid, hein, on est en 2020, il s'intéresse à une bourgade de Nouveau-Mexique, où il y a un antagonisme entre un shérif, entre guillemets, et puis un maire, en fait, et les deux s'affrontent. Au milieu de tout ça, les masques, et puis l'affaire George Floyd, enfin, et donc c'est un mélange de tout ce qui se passe aux États-Unis. C'est vu d'une manière assez objective, il n'y a pas vraiment de prise de parti, si ce n'est quand même, à mon avis, un petit peu de cynisme sur la part de Robert Eggers, comme toujours. C'est pas du tout horrifique, comme avant, il a quitté un peu le registre du film d'horreur, ou fantastique, pour un sujet plutôt vraiment pur terrien, mais avec quand même des séquences d'anthologie, y compris vers la fin, où ça s'accélère vraiment.
Il y a des flambées de violence.
Il y a une flambée de violence
qui rappelle quand même le Robert Eggers.
On sait qui c'est, on sait qui est quand même l'auteur, le patron, et ça revient vraiment à la fin avec voilà, cette espèce de climax culminant qui fait que je le mets en deuxième position pour cette globalité qui fait quand même que c'est assez séduisant et très bien filmé, bien évidemment, à chaque fois. Voilà.
Arnaud ?
Oui.
Bah, tu as un numéro 9 ?
Oui, j'en ai un. Il y a des films là que vous évoquez que je n'ai pas vu, donc bref, peu importe, ça va être à partir de ce que j'ai vu. En numéro 9, j'ai mis Real Pain de Jesse Eisenberg avec Jesse Eisenberg et Kieran Culkin.
Ah, c'est vrai que c'était en tout début d'année.
Oui,
c'est vrai.
Tout à fait.
C'est vrai.
Il était dans le. Enfin, il est dans l'intervalle. Je l'ai mis pour rappel. Donc, on a deux cousins qui sont endeuillés, je crois, de leur grand-mère a fui la Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale, et donc qui vont en pèlerinage voir un peu, enfin faire un espèce de road trip
autour des camps.
Voilà, autour des camps.
Un peu de tourisme.
Ouais, un peu de tourisme. Alors, j'ai trouvé le propos assez original et comment dire, l'étude de caractère des personnages plutôt sympathique. Après, c'est pas vraiment pour la mise en scène que je l'ai mis là, parce que malgré tout, c'est un film un peu plan-plan dans sa mise en scène. Mais bon, dans l'ensemble, on marche assez bien à ces personnages qui sont finalement assez attachant.
Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, les personnages sont bien écrits et attachants dans ce film.
Malgré que certains sont plutôt peu tête à claque, mais bon, ça participe au charme du film. Donc le voilà en 9e position.
Merci Arnaud. Claude ?
J'ai mis Un parfait inconnu parce que je crois que le réalisateur a parfaitement su créer cette incertitude sur qui était Bob Dylan. Il a parfaitement réussi, le titre d'ailleurs c'est Un parfait inconnu, à nous rendre le personnage, à être un parfait inconnu, sur un personnage en fait extrêmement introverti. Ce qu'il a à dire, il le met dans ses chansons d'ailleurs, ses interviews sont relatives, comme d'ailleurs beaucoup de grands chanteurs, ça se retrouvait surtout sur les jazzmen qui étaient incapables de donner une interview. Si on voulait savoir qui ils étaient, il fallait écouter leur musique, mais surtout pas les interviewer parce qu'ils étaient incapables de parler de ce qu'ils faisaient. Ce qui était un drame pour les journalistes. Et là, je crois que cette personnalité extrêmement introvertie, peu expansive, il le met excellemment bien en valeur et je trouve que c'est un film qui est parfaitement maîtrisé et réussi.
Ok, merci Claude. Gob.
Alors moi en 9e position, pour moi c'est le film, comment dire, c'est le film bouffé d'air frais de l'année, pour moi. Voilà, moi c'est le film, je pense, avec lequel je suis sorti avec le plus le sourire aux lèvres et avec le plus de joie et de gaieté. C'est un film thaïlandais qui s'appelle Comment je suis devenu riche grâce à ma grand-mère. Alors voilà, c'est pas du très grand cinéma, il faut en convenir, mais c'est quand même super bien écrit. Les personnages sont, alors là tu parlais de personnages attachants, là la grand-mère, le petit-fils, ils sont ces personnages, t'as envie de les prendre dans tes bras, voilà. Puis c'est c'est drôle, il y a la dimension locale, enfin voilà, on est au cœur de ce pays qu'on connaît pas forcément très bien, dont on voit certaines coutumes, et même il y a certaines coutumes qui nous font vraiment ça donne des scènes vraiment drôles, très très drôles à la fin du film, alors que justement on est dans des moments qui ne le sont pas du tout. Voilà, l'ensemble donne, moi j'ai trouvé un film avec une mécanique. Voilà, une mécanique narrative qui te prend, qui te lâche plus, et effectivement, t'es bien, t'es à l'aise, t'es bien dans ce cinéma-là, et tu t'en vas, t'as presque du regret de quitter ces personnages. Voilà, un film très très attachant, et c'est pour ça qu'il se retrouve dans mon classement.
Eh bien oui, on va en reparler. Eh bien, mon numéro 9, c'est le film de Julia Ducournau, Alpha. Et donc, Alpha, en fait, c'est dans une ambiance, genre découverte du VIH. Julia Ducournau donc, aborde le rapport à la maladie et la peur de la contamination, le rejet, la perte d'un proche. Elle cherche vraiment à rendre un hommage aux victimes décédées, mortes dans la honte, en fait, d'un virus qu'on ne connaît pas au départ. Et d'ailleurs, ça faisait aussi écho au Covid également, où c'est sorti, c'est sorti du coup 4 ans après le Covid, et 4 ans, même 5 ans maintenant, on peut dire plutôt. Et en fait, dans le film, le virus pétrifie les malades dans le marbre. Et je trouve, enfin, cette image va me rester, je pense, à vie, qui est à la fois une image terrible, mais aussi tellement belle. Et c'est ce que j'aime, en fait, dans le cinéma de Ducournau, qui mélange entre l'étrange et le sensible. Et c'est ce qui m'a, voilà, c'est ce qui m'a beaucoup touchée. Et c'est pour ça, c'est mon numéro 9. Alors très Vincent, bien. Ton numéro 8.
On va au-delà, d'accord. Moi, mon numéro 8, c'est... Alors, Claude parlait d'un peu de tiédasserie sur cette année. Là, je vais enchaîner 3-4 les prochains chiffres. C'est un peu des films qui auraient pu être remplaçables, en fait, dans le sens. J'ai commencé par Substitution, Bring Her Back en anglais. C'est un des premiers films d'horreur dont je vais beaucoup parler. Il y en a eu plusieurs. Et si c'est bien un truc qui s'est passé cette année, c'est qu'il y a eu une profusion de films fantastiques ou horreurs, surtout dans l'été. C'était curieux. Celui-là, il est placé quand même dans mon top 10 parce qu'il m'a marqué pour... certes, sa violence, il est moins de 16 ans, il est quand même rudement assaisonné. Ah oui, et il trouvera commun avec d'autres films qui sont sortis pour son lieu de travail, enfin son univers dans une maison isolée dans une forêt. On va retrouver ça dans beaucoup de films cette année, c'est très bizarre. Pourquoi cette récurrence? Et voilà, des images me restent en tête. C'est-à-dire, c'est assez violent, c'est assez cru, c'est assez dérangeant. Après, le scénario n'était pas extraordinaire, il y a eu des bugs, il y a eu des problèmes narratifs vers la fin. Je me souviens que j'ai été un peu en partage, mais bon, je l'ai quand même placé parce que c'est le moins bien des autres. Mais voilà, je l'ai quand même mis parce que je trouve qu'il y a cette espèce de triade de films qui se ressemblent un peu, et celui-là en faisait partie. Donc à voir ou à récupérer, à revoir si vous ne l'avez pas vu. Il sort maintenant en format alternatif, DVD ou autre. Il va bientôt passer sur les streams aussi. Oui. Tentez-le.
Super.
Il faut avoir le cœur bien accroché quand même.
Justement, celui-là, moi, je ne l'ai pas mis. Malgré une scène de mâchage de bois. Je ne vais pas en dire plus sur cette scène-là, mais qui est assez marquante. J'en conviens. Donc, en 8e position, moi, j'ai mis Mickey 17. De Bong Joon-ho. Je suis désolé, Gob.
Tu es libre de tes choix.
Oui, complètement. Ouais. Donc, film de science-fiction de notre ami
Bong Joon-ho.
Bong Joon-ho.
Qui est pourtant un très bon ami à moi.
Oui, qui est pourtant un très bon ami à toi.
Qui était, oui.
Oh. on retrouve quand même sa causticité, son humour, qui est quand même très particulier. Pour rappeler un petit peu dans les grandes lignes, on a Mickey qui, bon, le chiffre, on verra ça plus tard, mais qui pour fuir la Terre, se fait des problèmes d'argent, il me semble, se fait embaucher pour aller dans l'espace colonisé, on ne sait quelle planète.
Pour survivre, a priori.
Et pour survivre aussi, bien sûr.
Et pour mourir plusieurs fois.
Et voilà, pour gagner sa place sur le dit vaisseau, on lui propose d'être la serpillière du vaisseau en question. C'est-à-dire que il prête son corps à toutes les expériences possibles et imaginables, sachant qu'il meurt et qu'il est réimprimé.
Réimprimé, ouais,
c'est réimprimé, ça. Ce qui est là, parmi les scènes les plus drôles du film. Voilà, donc, alors après, évidemment, on peut le reprocher d'avoir voulu partir dans trop de directions en même temps. Le truc que j'avais pas évoqué, moi, là-bas, la dernière fois qu'on en a parlé à sa sortie, et donc il y a Robert Pattinson qui joue le rôle titre, mais à un moment donné, je pense vers la fin du film, je me suis dit, mais en fait, déjà Robert Pattinson et Bong Joon-ho auraient peut-être été les plus aptes à comment dire à adapter Valérian de Mézières. Je trouve qu'on a un peu l'esprit de certains albums. Donc voilà, sa place est là, même si c'est assez un peu foutraque. Bon, bref, je vais pas m'étendre plus dessus, mais j'avais quand même pas mal apprécié le film déjà. Bon,
ceci dit, je pense que c'est un film qui sera certainement à réévaluer. Je pense.
Sans doute. Ouais.
Je pense. Voilà, maintenant, avec le recul, je me dis que voilà, j'avais eu la dent très dure contre le film, mais peut-être effectivement.
Non, mais je comprends ton point de vue. Je comprends ton point de vue. Il est un peu trop riche. Il y a un peu trop de choses, mais malgré tout, voilà.
Des fois, t'as des films, t'en attends trop, et,
ouais.
Et voilà.
Et, oui, tu peux être déçu.
Voilà, c'est ça.
Je comprends très bien.
Claude, ton numéro 8.
Ma numéro 8, j'avais mis Comment devenir riche, puis je l'ai retiré. J'ai mis un film parce que. Il parle de la Corse, j'ai mis le Mohican, Mon Royaume. Film, et j'avais dit qu'à l'époque, la Corse s'ouvre. Il se passe quand même quelque chose en Corse. C'est que ce sont des films qu'on n'aurait pas pu faire il y a 10 ans, et qu'on fait maintenant, qui sont extrêmement attachés à la réalité, à l'identité de l'île. Et ce sont des films extrêmement très faits par des Corses d'ailleurs, et faits extrêmement maîtrisés. Et
c'est vrai qu'il y en a eu 4 là en oui, l'espace oui. d'un an et demi et que des films intéressants. Ouais.
Et j'avais dit que ce film c'était La Fuite Infernale en fait, et on voit très bien comment il s'empêtre dans une espèce de chasse qui c'est interminable, et on se demande
une chasse à l'homme,
est-ce qu'il y aura un jour une fin, est-ce que on peut tourner un jour la page, et moi j'avais un film, c'était en plus un film avec une remarquable efficacité. C'est un film très bien, c'est un film d'action bien évidemment, mais on n'a pas oublié les paysages de Corse qui sont magnifiques. Et pour la maîtrise de ce film et sur le plan politique, je pense que c'est un film qui mérite d'être dans mes 10. Je pense que c'est important de noter qu'il se passe quelque chose en Corse.
Ah, effectivement. Non et puis je me souviens que le film, c'était pas une vision carte postale en fait.
Pas du tout. Non.
Le fait que ce soit un Corse, justement. Oui,
oui, on n'est pas dans les clichés non plus. On n'est pas dans les clichés. On est vraiment dans la réalité. Il y a eu ce film excellent avec cette actrice d'origine algérienne qui.
Non, c'est pas
Ziaïrzi,
c'est pas...
Non, c'est Borgo, qui était un film...
Très, bon, très très bon film.
Très 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 bon film, tiens, qui aurait pu être là aussi. Hein. Je vous dis, entre le 2 et le...
Elle a eu le César, Ziaïrzi, pour le film.
Oui, il y en aurait pu avoir 15 au milieu. Donc c'était mon numéro 8, Le Mohican, Mon Royaume.
Merci, Gob.
Alors moi, mon numéro 8, c'est le film de Joachim Trier qui s'appelle Valeurs sentimentales. Voilà, alors Joachim Trier, c'est un réalisateur, on va dire, qui œuvre plutôt d'ordinaire dans un cinéma d'auteur, on va dire, même parfois un petit peu trop autorisant. Mmh. Voilà, mais moi j'ai trouvé que ce film-là était un peu différent de ce qu'il fait d'habitude. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus attachant, beaucoup plus émouvant. Je trouve que cette peinture de ce père qui a été absent pour ses deux filles, qui est un cinéaste, qui essaye de, en plus de relancer sa carrière. Il y a des scènes très émouvantes autour du temps qui passe, de ce cinéaste qui essaye de relancer sa carrière, qui va retrouver des anciens collaborateurs. Tout ça est très très émouvant. Et puis il y a, je trouve, ouais, c'est cette histoire avec ses deux filles, le lien déjà entre les deux sœurs, le lien entre les deux sœurs et leur père, cette cette façon d'essayer de recoller les morceaux sans pouvoir vraiment y arriver. J'ai trouvé tout ça était vraiment très juste. Et au bout du compte, moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Voilà. Valeur sentimentale de Joachim Trier.
Oh, très bien. Ça me donne envie de voir les films. On en reparlera en plus,
oui,
d'accord.
On en parlera, oui.
Eh bien, moi, mon numéro 8, c'est le film de Pedro Almodovar, La chambre d'à côté.
Ah oui, merde.
Et ah, tu l'avais oublié.
Non, non, on ne l'avait pas oublié.
Et donc, bon, vous allez peut-être en reparler, mais moi, en tout cas, c'est donc un film qui aborde la question de l'euthanasie. Et ça se passe aux États-Unis où l'euthanasie est interdite comme en France. Et donc c'est un dialogue entre deux femmes, une romancière interprétée par Julianne Moore, que j'adore, et une ancienne reporter de guerre interprétée par Tilda Swinton, qui est aussi géniale. Tilda Swinton qui a donc un cancer incurable. Et donc Almodovar n'a jamais été dans une recherche de réalisme, et c'est ce qu'on aime aussi dans le cinéma d'Almodovar. Et il donne ici donc un cadre qui est inspiré par l'art contemporain, et c'est ça qui donne aussi une image vraiment très très belle, en fait, dans les couleurs, le cadrage et les décors, les vêtements, enfin, sont vraiment sont bien choisis. Et donc on évolue dans un milieu privilégié, hein, avec ces deux femmes. Et donc, malgré l'interdiction au choix de l'euthanasie, et donc grâce au dialogue de ces deux femmes, en fait, Almodovar, il permet de nourrir la réflexion, je trouve, autour de l'euthanasie. Et en sachant que l'euthanasie est légale en Espagne depuis 2021. Voilà, donc c'est un sujet qui est important pour Almodovar. Et j'ai donc beaucoup aimé. C'est donc mon numéro 8. Alors, on a donc parlé de nos trois premiers films.
Oui.
Et du coup, on peut peut-être faire une pause musicale pour enchaîner après sur les trois suivants, si vous voulez bien. Et ben, on lance la musique et puis on va passer deux, trois morceaux et puis on reprend juste après. Restez donc sur Radio Campus Orléans 88.3 FM.
Thank you. down, for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me, no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 lo. Then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small small one. I know, say she sabi pass it down one one. But she feeling insecure, cause her friends go dey go my light chain go one. Go dey go my light chain go one.
Ever dreamed, wanna be who?
Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans pour l'émission Alors on se fait un film. Et donc on vient d'écouter quelques morceaux de bande originale de films qui sont sortis en 2025. Il y a eu donc notamment donc Arco, la BO de Arco, c'était le premier morceau composé par Arnaud Toulon. Clouds Away qui est interprété par November Ultra. En deuxième morceau, on avait Calm Down, composé par le chanteur nigérian Rema, interprété avec Selena Gomez, qui est un morceau de la BO du film de Asia Arzid, La Petite Dernière. Et le dernier morceau qu'on a écouté sort de la bande originale des Preuves d'amour d'Alice Douard, qui est donc You and Me, un remix avec Elisa Doolittle. Voilà, on continue. On continue donc avec notre top 10 et nous sommes au numéro 7. Et Vincent, dévoile-nous.
Oui, alors mon numéro 7 c'est Over, l'autre en anglais, mais c'est un film français, franco-belge, de David Moreau. Autre film fantastique horreur sorti au creux de l'été, enfin en juillet pour le cœur, en l'occurrence, que moi j'ai beaucoup aimé, pour d'abord parce qu'il me donnait la part belle à Olga Kurylenko, qui est une actrice trop rare et qui est vraiment centrale dans ce film très simple, qui est un film d'une femme dont la mère est décédée, donc elle va retrouver la maison familiale parce qu'il y a des problématiques de succession, etc. Et bien évidemment il y a des souvenirs qui vont ressortir en fait de cette maison qu'elle a connue étant petite, mais donc elle a eu des traumatismes en fait qui sont passés. Elle retrouve sa chambre d'enfant, sa chambre d'ado. Alors ça c'est très fréquent aujourd'hui dans les séries ou dans les films, on retourne dans les années 80, c'est un peu systématique maintenant dans les cinémas de fantastique ou horreur. Stranger Things en ce moment en salle, enfin pour les séries. Mais malgré tout, ce film m'a plus séduit que le précédent, que Substitution. Moins gore, plus efficace en termes de scénario surtout, mais toujours dans une maison isolée en forêt. C'est hallucinant à quel point cette triade, cette thématique revient cette année. Mais voilà, Over se situe au milieu, il y en aura un qui sera plus haut dans cette trilogie de films fantastiques qui sont un peu tous pareils. Voilà, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Le réalisateur avait fait Il au pluriel, ILS, qui était très très bien aussi, un scénario original sur le sujet. Donc voilà, j'ai mis Over en 7e position cette année.
Merci. Arnaud, ton numéro 7 ?
Oui. Alors moi, c'est un peu comme Claude. J'ai des films qui peuvent... qui peuvent être interchangeables.
Tu viens de refaire ton top 10 là.
Plus ou moins, c'est-à-dire tout à l'heure même, avant la pause musicale, je regardais, je me disais, mais celui-là, je l'ai mis là, alors que j'ai mis Mickey à tel endroit. Bref, il y a un truc qui n'allait pas là hier. Je pourrais même avoir des ex-échos, parce que comme Vincent l'a dit, dans les films d'horreur, on a une thématique...
C'est interdit.
Du moins, c'est interdit, je vais pas faire.
Pour le prochain tour.
Ah bon. Il y a des choses, effectivement, des similitudes sur certains films d'horreur qui sont sortis, qui font qu'on a une espèce de fil rouge ou de thématique... c'est pas la thématique, c'est le lieu, finalement, l'endroit où se déroulent les films en question. Et donc, du coup... Bon, là, je vais mettre Black Phone. Je vais pas mettre...
Ah bien, oui.
Ouais. Black Phone 2, hein, pardon. Alors, c'est pas... J'aurais dû le mettre plus vers le dixième, mais bon. Malgré tout, alors voilà, c'est pas une réussite. C'est la suite d'un film d'horreur qui était plutôt, pour le coup, assez bien...
Troussé.
Bien troussé, merci. Et en tant que suite, on peut pas dire que ce soit au niveau du premier... Ce qui est souvent le cas, mais enfin, de Scott Derrickson, quand même, pour le casting, je vous laisserai chercher. Mais c'est le casting quand même du premier.
Oui.
C'est ça qu'il a noté. C'était des enfants adolescents qui là sont un peu plus adolescents vers l'âge adulte. Je l'ai mis à cette place-là pour plusieurs. Enfin, la raison principale, c'est que. J'ai pas mal apprécié dans le boulot de Scott Derrickson son travail sur les différents types d'images, c'est-à-dire le par moment il utilise sûrement tel type de caméra et à d'autres moments tel autre type de caméra, et c'est très affirmé. Il y a un côté un peu expérimental de ce côté-là qui m'a pas qui m'a plu. Bon, après le scénario lui est peut-être un peu moins inventif, on retourne un peu du côté des slashers et ce genre de choses, mais il y a un travail de l'image, entre autres de la neige, puis on y est en plein dedans, qui était quand même à remarquer, quoi, voilà. Peut-être pas pour une septième position. Mais...
bon, bah, voilà, c'est ton choix défini.
Oui, voilà, c'est fait, c'est fait.
Ouais. Vas-y, Claude.
Eh ben, moi, j'ai mis... Alors, j'ai mis en numéro 7 un film que j'avais déjà cité, qui s'appelle The Brutalist. Et j'ai quand même réfléchi avant de le mettre. Parce que je me dis, au fond, quelle idéologie... et passe par ce film, qu'est-ce qu'il veut transmettre comme idéologie, et c'est quand même un film à la gloire des États-Unis où tout est possible, on peut réussir, et compte tenu de ce qui se passe à l'heure actuelle aux États-Unis, j'ai beaucoup hésité à mettre ce film. Parce que il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans ce film. Il y a d'abord le thème de l'immigration. Et il faudrait quand même rappeler à Trump que l'Amérique est un pays d'immigration.
Oui, mais c'est justement un film aussi qui montre le racisme de ce pays, en fait. Oui. Et l'illusion qui était le rêve américain. Et
oui, tout à fait, oui. C'est quand même... les habitants, c'était quand même les Indiens. Hein. C'était les Amérindiens. C'était pas les Irlandais. C'était pas ces gens-là. Hein. C'était... Donc, quand je l'entends parler d'immigration, mais c'est un pays uniquement fait d'immigrés. Donc, bon. Et puis, on aborde le thème de l'identité, notamment de l'identité juive. Et c'est en fait... quand même le parcours assez exceptionnel d'un rescapé du camp de concentration qui rencontre un homme qui a beaucoup d'argent, qui est complètement mégalo, manipulateur, et qui va l'emmener à la réussite. Il y a quand même ce côté américain où on peut, en venant de rien, on peut réussir. Quoi.
Ouais, c'était... C'est pas sans mal. Hein.
Mais c'est pas sans mal. C'est pas sans mal. Et ça a été une époque, et je pense que c'est plus possible. Enfin, on sait très bien qu'à chaque fois, il y a une nouvelle couche d'immigration aux États-Unis. Elle pousse la couche précédente. On a vu les Cubains avec les Mexicains, et ainsi de suite. Pour l'instant, il n'y a rien qui pousse. Hein. Donc, j'ai hésité, mais c'est quand même un film qui est très, très, très bien maîtrisé. Hein. C'est extrêmement bien filmé. Donc, c'est mon numéro 7.
Yes. Gob.
Alors moi, mon numéro 7, c'est un film, j'en avais parlé à l'époque de sa sortie, qui est passé malheureusement, ça fait partie de ces films dont je regrette souvent qu'ils passent un peu de façon météoritique dans les salles et qui passent inaperçus, parce qu'ils ne le méritent pas. C'est un film somalien qui s'appelle Le village aux portes du paradis, un film de Mo Araoué. Voilà, alors le film, moi je me rappelle, quand j'y suis allé, on devait être trois dans la salle, il a dû durer deux semaines au Carme. Moi j'ai trouvé que c'était un très très beau film, c'est extrêmement poétique, c'est l'histoire de cet homme qui a perdu sa femme, qui élève seul son jeune fils. Il rencontre cette femme dont le rêve est d'ouvrir un atelier de couture. Alors elle va se battre pendant tout le film pour obtenir un petit local pour ouvrir son atelier de couture. Alors voilà, il se passe pas forcément grand chose, mais voilà, ces paysages somaliens sont filmés avec beaucoup de poésie, en plan large. C'est très beau, et puis il y a un amour vraiment. On sent que ce réalisateur il a une vraie affection pour son pays, dont il veut montrer justement que c'est autre chose que ce qu'on sait généralement de la Somalie, la violence, la misère, la faim, voilà, donc ça c'est présent aussi, mais il veut montrer aussi que c'est un pays où il y a l'espoir, où il y a des gens qui essayent de construire des choses, où on avance, et à l'image du continent africain je pense aussi, voilà, donc moi c'est un film qui m'a beaucoup touché, et voilà, c'est bien regrettable que dans le flot des sorties régulières, des films comme ça sont complètement noyés, passent inaperçus, et c'est très dommage.
Tu peux redire le titre ?
Le village aux portes du paradis.
De qui ?
Mo Araoué.
Mo Araoué. Bah, merci, Gom. Moi, en numéro 7, j'ai mis donc le film d'Andrea Arnold, donc cette cinéaste britannique, Bird. Andrea Arnold, qui a notamment réalisé American Honey, Fish Tank, Red Road. c'est une réalisatrice qui fait du cinéma souvent sur la jeunesse dans les quartiers défavorisés en Angleterre. Et donc, bah, Bird, évidemment, n'échappe pas à la règle. Mais cette fois, là, c'est un peu la révolution dans son cinéma, parce qu'elle intègre des passages fantastiques. Et c'est ça qui est vraiment... qui peut surprendre, mais c'est fait vraiment intelligemment à la Andrea Arnott, qui est réputée pour un cinéma social. Un cinéma, je veux dire, qui est filmé avec les codes du documentaire. Et en fait, les passages surnaturels donnent vraiment une symbolique à ce que va vivre l'héroïne du film, Bailey, qui est une jeune fille de 12 ans qui vit dans un squat avec son père, son demi-frère et la nouvelle fiancée de son père. Et Andrea Arnold crée vraiment une relation très spéciale entre Bailey, cet adolescent de 12 ans, et les oiseaux. Et ça, cette relation, ça permet vraiment de réfléchir au passage à l'âge adulte. Et malgré les difficultés économiques, les conflits, et malgré tout ça, elle montre aussi qu'il y a beaucoup d'amour, de solidarité. Et c'est un film vraiment plein d'espoir et que j'ai beaucoup aimé. C'est donc mon numéro 7. On passe au numéro 6 avec Vincent.
Alors moi... Un film fantastique, bien sûr. J'ai mis The Monkey, le film d'Osgood Perkins, Os Perkins pour les intimes. J'en ai profité pour mettre en prix de gros L'Élu, qu'on a vu très récemment avec Arnaud il y a quelques semaines. Deux films en un an, il est prolifique, le fils d'Anthony Perkins. Donc il se dessine pour l'instant toujours à faire du cinéma d'horreur fantastique. Plutôt The Monkey que L'Élu, parce que L'Élu c'était un petit peu en moindre qualité. Mais The Monkey c'était vraiment bien parce que c'était drôle, c'était fou, c'était totalement barré. C'était un moment de liberté dans le film d'horreur, c'est ça qui est bien, c'est quand le film échappe un petit peu à l'univers et au code. L'idée c'était simplement une marionnette, enfin un jouet, vous savez, les singes à cymbales. Ou à tambour pour le coup, qui est dans une famille, etc. Et en fait, chaque fois que le singe est manipulé avec sa boîte à remonter, enfin sa clé, quelqu'un meurt quelque part. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand, mais c'est indubitable, c'est une malédiction. Et avec ce simple petit scénario de base, il arrive à faire une intrigue d'1h30 qui est ciselée. Le cinéaste s'est filmé.
Oui, c'était une adaptation de Stephen King.
C'était une adaptation de Stephen King pour le coup. Mais bon, voilà, il en a fait son jouet, justement, c'est le cas de le dire. Et j'en ai gardé de très bons souvenirs lorsque je l'ai vu en salle avec toi, Arnaud. On s'était bien amusé autour de ce petit film d'Osgood Perkins, que j'aime suivre.
Merci.
Oui, là je vais lâcher les deux.
T'as un ex aequo ?
Ouais.
Mais
on reste un peu dans. Je vais pas m'étendre sur un des deux parce que il a déjà été évoqué. C'est Other que Vincent a évoqué précédemment, et en ex aequo je mets Compagnonne.
Oui, Compagnonne, je n'ai pas parlé,
de Drew Hancock avec Sophie Thatcher qui porte le film sur ses épaules. Alors là aussi, une maison design au fond des bois et
tout pareil.
Et oui, il s'y passe des choses pas très catholiques. Je vais pas trop spoiler parce que
oui, il y en a qui ne l'ont pas encore vu et qui ont prévu de le regarder.
D'accord. Et justement. c'est pas un chef-d'œuvre. Il y a même des choses qui sont à moi que je trouve qui auraient pu être bazardé avec l'eau du bain, mais dans l'ensemble, le principe, le pitch que je vais pas dévoiler, plus l'actrice qui vraiment porte le film sur ses épaules, fait que j'ai passé un bon moment sur un film fantastico thriller, et qui comme Other, se passe pareil dans une maison. C'est vrai que c'est vraiment à la mode en ce moment, c'est terrible. On va vous faire un paquet.
La cabane au fond des bois.
C'est vraiment ça. Je sais pas pourquoi, ils ont tous.
Vous allez pouvoir avoir un coffret DVD dans quelques mois.
Regroupé,
c'est terrible. Et tous raconte pas la même chose.
Oui, c'est ça le tour de force quand même.
Claude, ton
en 6, j'ai mis. Alors, je remarque
7,
avec surprise que j'ai mis L'inconnu de la Grande Arche. Il aurait pu être en 9, il aurait pu être en 10. Je veux dire.
Claude, c'est.